Notre conférencière aujourd'hui, c'est une personne qui vient de l'Église baptiste de Trois-Rivières. C'est une personne que je connais depuis très longtemps. En fait, depuis l'année passée qu'on se demande depuis quand qu'on se connaît. On n'a pas trouvé la réponse encore, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît. Chantal, elle est mariée depuis 25 ans. Elle a trois enfants. Un garçon de 19 ans, Olivier. Un de 17 ans, Jérémy. Et la troisième, 14 ans, Elisabeth. Et Chantal, elle est traductrice de profession. D'ailleurs, c'est peut-être là qu'on s'est connus, Chantal. En tout cas, on en discutera tout à l'heure, là. Mais on a travaillé ensemble aux éditions Parfum. Mais Chantal a travaillé vraiment longtemps, là, peut-être 15 ans, peut-être plus environ. Ouais. Ensuite, elle a travaillé avec Awana. Puis d'ailleurs, elle travaille toujours avec Awana, qui est un... Awana, c'est comme une espèce de programme pour les jeunes à partir de 4 ans jusqu'à peut-être 15 ans, 16 ans. Chantal me corrigera. Et puis, une chose que vous devez savoir, que la plupart peut-être savent déjà, c'est que Chantal, elle a vraiment le théâtre dans la peau aussi. Ceux qui la connaissent un peu, vous savez que Chantal, elle a un site web à cet effet parce qu'elle a écrit plusieurs pièces de théâtre évangélique qui sont jouées partout, je crois même en Europe, si je me trompe pas. Alors, et puis vous savez, je dois vous dire une chose. Chantal, c'est une personne que j'aime vraiment beaucoup. Parce que c'est peut-être la seule personne avec qui je suis capable de faire ce qu'on appelle des parties de répartie. Chantal a la répartie très, très facile, très rapide, et puis moi aussi. Peut-être pas ici en avant, là, ça paraît pas, là, mais vraiment avec Chantal, j'aime beaucoup faire de ce genre de répartie. Et puis j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à l'entendre aujourd'hui que vraiment j'ai de plaisir à la connaître. Alors Chantal Bilodeau-Legendre.
Alors, bonjour à toutes. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Je vais juste faire quelques petites rectifications. Lise, ça va faire 25 ans qu'on est mariés. Awana, c'est, je ne veux pas faire la publicité d'Awana, mais c'est quand même une association de jeunesse internationale qui a des clubs à partir de 2 ans et même 1 an et demi. Sauf qu'en français, on commence à 3 ans, on a jusqu'à 11 ans de traduit. Et ça va jusqu'à plus loin dans l'adolescence et c'est pour former des leaders aussi. Alors, juste une précision. Je veux remercier beaucoup le comité organisateur de m'avoir approché pour la conférence de ce matin. C'est vraiment un privilège que je reçois de la part du Seigneur et une marque de confiance aussi que je vois de la part du comité. Et je veux que vous sachiez que les gens du comité et aussi moi ont prié beaucoup pour vous, pour vous qui êtes ici ce matin, pour que vous puissiez être édifié, béni d'une façon ou d'une autre, soit par les choses que j'ai à cœur de vous partager, soit par la communion, juste le fait d'être ensemble, que ça puisse vous faire du bien aujourd'hui. Peut-être que vous êtes pas, vous avez vos soucis, vos préoccupations, mais le Seigneur est plus grand que ça, que vos soucis, vos préoccupations, et notre prière, c'est que le Seigneur vous rencontre. Puis je voudrais faire aussi une autre précision. Est-ce que c'est bien de mentir? Non, OK. C'est péché. Est-ce que c'est bien de mémérer? Non. OK. Est-ce que c'est bien d'insulter les autres? Bon, parfait, parce que ce n'est pas de ça que je veux parler, mais je voulais juste être sûre que si vous pensiez que c'était de ça que je parlerais, je voulais juste mettre ça au clair, c'est pas bien, ne le faites pas, et on va pouvoir passer à autre chose. Les versets, vous avez plusieurs références notées dans vos notes. Alors, c'est pour vous aider. Si vous ne prenez pas de notes ici, bien, à la maison, vous pourrez au moins lire les références qui sont données. Les références, la plupart, je les lis dans la version Second 21, qui est une version plus récente et que j'aime beaucoup. Parfois, c'est tiré de la version Parole de vie. Alors, c'est une version en français fondamentale de base qui est très dynamique et qui est utilisée surtout, je pense, en Afrique de l'Ouest, à cause de la simplicité de son vocabulaire. C'est d'ailleurs une Bible que les enfants lisent avec beaucoup de facilité. Et si vous n'êtes pas familière avec le texte biblique, Parole de vie pourrait être une bonne introduction, une bonne amorce à la lecture du texte biblique dans cette version-là. La parole est une lame tranchante. Avant de parler de notre parole, j'aimerais qu'on parle de la parole de Dieu. Parce que c'est la base de tout mon propos ce matin. les mots de nos mots, ça va être relié directement avec la parole de Dieu. Alors, j'aimerais poser une base qui décrit comment est la parole de Dieu. Alors, dans Psaume 19, les versets 8 à 11 que vous avez ici, vous n'êtes pas obligé de chercher les références. Si vous avez votre Bible, ce n'est pas nécessaire de toujours chercher les versets dans vos notes, dans votre Bible. Dans le Psaume 19, on voit que la parole est parfaite. La parole de Dieu est vraie. Elle est droite. C'est une parole claire, juste, précieuse, douce. C'est une parole aussi qui donne du réconfort, qui rend sage, qui réjouit le cœur, qui éclaire la vue. Alors, elle a de très belles qualités. Jean 17, 17 nous dit, « Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est la vérité, de façon absolue. 1 Pierre 1, 25 nous dit, « La parole du Seigneur subsiste éternellement. » Ça veut dire que la parole de Dieu dure toujours, elle ne change pas. Elle n'est pas changeante au gré des circonstances ou des époques. La parole de Dieu, qui est-elle? Dans Hébreux 11, 3, on lit, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. » Donc, ce verset nous dit, Hébreux 11, 3, que Dieu a formé le monde par sa parole. Puis, on le voit dans Genèse 1, on voit Dieu dit, et il a amené à l'existence la lumière, le ciel, pour séparer les eaux les unes des autres. Il a amené à l'existence la terre sèche, il a fait l'amas des mers, toutes plantes sur le sol, les astres, les créatures marines, les oiseaux, les animaux terrestres. Dieu dit, et c'est arrivé. Il a dit aussi, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Il créa l'homme, mâle et femelle, si vous... Ça fait un peu bizarre peut-être, mais c'est ainsi. Quand il dit « il créa l'homme et la femme », c'est les mots mâle et femelle. Comme il a fait les animaux dans les deux sexes, il a créé l'être humain dans les deux sexes. Par sa parole, Dieu a tout créé par le pouvoir de sa parole. Il a tiré l'univers entier du néant par la puissance de ses mots à lui. Je peux le croire. Hébreux 11, 3 nous dit « c'est par la foi qu'on le croit ». Je peux le croire ou ne pas le croire. Décider de croire ou de ne pas croire aura un impact sur le reste de ma vie, sur l'ensemble de ma vie. Genèse 1 et Jean 1 commencent de la même façon. Si on avait mis l'évangile de Jean au début du Nouveau Testament, ben, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament commenceraient de la même façon. Au commencement. Au commencement, dans Jean 1, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole est devenue chair. La parole est devenue homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Cette parole qui est Dieu même, qui a tout fait, qui est même devenue chair et os, c'est qui? C'est Jésus. On voit dans Colossiens 1, les versets 15 et 17, que le Fils est l'image invisible, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui, le Fils, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. L'équation est simple. Dieu a créé le monde par sa parole. Sa parole, c'est Dieu même, c'est son expression. Sa parole a pris un corps humain, elle est devenue homme, c'est Jésus. Sa parole, c'est Jésus, le créateur de toutes choses. La parole de Dieu, au départ,
c'est une personne. La parole de Dieu, c'est une personne. On dit que la Bible est la parole de Dieu. C'est sa parole écrite, ce n'est pas un livre ordinaire. Quand on aborde la Bible, on aborde un message de la part du Créateur de l'univers. On aborde son cœur, sa pensée, ses projets. Cette base que je viens de poser au sujet de la parole de Dieu est essentielle parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes dotés de parole. Aucun animal n'a cette caractéristique. La parole ne fait pas de nous des animaux supérieurs, comme le disent les évolutionnistes. La parole, entre autres choses, nous rend supérieurs aux animaux. Et c'est important de comprendre ça, afin de comprendre la puissance de nos paroles, la puissance de nos propres paroles. Hébreux 4, 12, le verset est dans vos notes. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. J'aimerais ça qu'on lise à voix haute, tout le monde, dans vos notes. Alors, un, deux, trois, go. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le contexte de ce verset-là, et du chapitre 3 aussi dans l'Épître aux Hébreux, c'est l'invitation que Dieu avait faite à son peuple d'entrer dans son repos, le pays de Canaan, la terre promise, après un court séjour dans le désert, après la sortie d'Égypte. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de la nécessité de croire à la parole de Dieu pour entrer dans son repos. Et on lit que si le peuple n'a pas pu entrer dans le pays, c'est à cause de son incrédulité, de son manque de foi. Et ça, on va en parler en détail dans la deuxième partie. Donc, il est question dans ce chapitre-là des paroles de Dieu à son peuple, de l'invitation que Dieu nous fait à nous aussi, de ne pas tomber par incrédulité. Puis là, on a ce verset-là. La parole de Dieu vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, je veux voir chacune de ces qualités. Elle est vivante. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas inerte. Elle possède la vie et elle engendre la vie. Jean 1, 4 nous dit, « Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Tout a été fait par elle. » Jean 1, 4, « En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. » Jacques 1, 8 nous dit, « Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. » Donc, il nous a donné la vie par la parole de vérité. 1 Pierre 1, 23 dit, « Vous êtes nés de nouveau grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Par sa parole, Dieu a amené à l'existence l'univers tout entier, l'univers matériel et immatériel. Et par sa parole, il donne la vie à votre esprit. Parce que votre esprit, par naissance, est séparé de Dieu, il est mort à cause du péché. La parole de Dieu est vivante, elle vit, elle donne la vie. Mais la foi est indissociable de cette vie spirituelle, et c'est la foi en Jésus-Christ. La parole est vivante et efficace. Efficace et effet sont des mots de la même famille. Elle produit un effet notable. Elle est efficace dans ce sens qu'elle produit l'effet escompté. Elle agit. Ésaïe 55, 10, 11 nous dit, « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Alors il dit, la pluie et la neige sont efficaces, hein? Parce que quand ils descendent du ciel, ils font tout ça. Ils arrosent, ils fécondent, ils nourrissent, et après ils retournent au ciel. Il en va de même pour ma parole, dit le Seigneur. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. On dirait que la parole est une personne ici, hein? Une personne à qui une mission est confiée. Et Jésus lui-même a accompli toute la mission que Dieu lui avait confiée et il est retourné auprès de son Père. Rien de ce que Dieu dit n'est stérile. Tout ce que Dieu dit porte du fruit. Tout ce que Dieu dit porte du fruit. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est efficace aussi. Romains 10, 17 nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi, ma foi, la vôtre, découle de la parole de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu a engendré votre foi. La parole de Dieu a suscité votre foi. Alors, de quoi ma foi a-t-elle besoin pour se nourrir, pour croître, pour se fortifier? Elle a besoin de la parole de Dieu. Je ne peux pas déconnecter ma foi de ce qui l'a engendré, la parole de Dieu. 2 Timothée 3, les versets 16-17 nous dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Inspirée. Soufflée. Inspirée. Soufflée. Il y a un souffle, le souffle de l'Esprit. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, puis en grec, c'est anthropos, être humain. Alors, ce n'est pas juste pour ces messieurs, c'est aussi pour ces mesdames. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Alors, la parole écrite de Dieu forme et équipe les croyants, les croyantes. Elle les rend aptes à mener une vie agréable à Dieu. Alors, on voit qu'elle est efficace, elle agit. Elle agit aussi, psaume 119, verset 11 nous dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La parole de Dieu a le pouvoir de nous garder du péché dans la mesure où on se l'approprie. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La parole de Dieu a ce pouvoir. 1 Thessaloniciens 2, 3. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. La parole et la foi, ici encore, sont intimement liées. La parole de Dieu agit en vous qui croyez. La parole de Dieu va être efficace dans ma vie si je la reçois avec confiance en reconnaissant que c'est Dieu qui me parle. La parole est aussi tranchante. Elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante. Elle est incisive. Elle est propre à couper. Éphésiens 6, 17 nous dit, faites bon accueil au casque du salut et à l'esprit et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, dans Hébreux 4, 12 et dans Éphésiens 6, 17, on voit que la parole est comparée à une épée. L'armure du chrétien, qui est décrite dans le chapitre 6 d'Éphésiens, comporte 7 éléments. Et il y en a un. Alors, il y en a 6 qui servent à nous protéger, la cuirasse, la ceinture, les chaussures, le bouclier, le casque. Il m'en manque un. Il y en a 7 en tout. En tout cas, je pense que j'ai oublié un mot dans mes notes. Mais l'épée sert à attaquer. Alors, il y en a une partie de l'armure est pour nous protéger, le plus grand nombre d'éléments sert à nous protéger, mais il y a une seule chose qui sert à attaquer, c'est l'épée de l'esprit. Et c'est intéressant de voir dans les versets que j'ai donnés dans l'Apocalypse, nous présente Jésus comme ayant une épée aiguë à deux tranchants dans la bouche. Apocalypse 1,16, Jean décrit la vision qu'il a de Jésus-Christ. Il dit « Jésus tenait dans sa main droite sept étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. » D'habitude, une épée, c'est dans la main. Mais dans sa main droite, il y avait sept étoiles et de sa bouche sortait une épée. Apocalypse 2,16, Jésus parle et dit « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Il ne parle pas de l'épée qu'il y a dans sa main, il parle de l'épée à deux tranchants dans sa bouche. Les autres versets dans Apocalypse 19 nous présentent encore Jésus-Christ. « De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. » Alors c'est une épée, la parole est une épée qui tranche, qui juge, qui frappe. Mais aussi, c'est une épée, c'est une parole qui est pénétrante. C'est-à-dire qu'elle entre profondément dans ce qui entrave le passage. Quand on dit d'une personne qu'elle a un regard pénétrant, c'est qu'on dirait qu'elle regarde au-delà, qu'elle regarde dans notre cœur. L'épée, la parole de Dieu est pénétrante en ce sens qu'elle sépare ce qui est indivisible humainement parlant, l'âme et l'esprit. La parole de Dieu sépare ce qui est indivisible humainement parlant, l'âme et l'esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les intentions, les désirs, les motifs véritables. C'est très pénétrant. Elle entre au plus profond de l'âme. Elle s'insère dans les recoins les plus secrets du cœur. La parole de Dieu donne la vie à celui qui croit et elle condamne celui qui demeure incrédule. On voit son caractère pénétrant aussi dans le verset suivant, parce que le verset tout de suite après, Hébreux 4,13, nous dit « Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert. » Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est nu et découvert aux yeux de Dieu, et sa parole révèle ce qui est caché, parce que c'est une lame qui fait une incision dans le cœur. Les effets de la parole de Dieu sur le cœur de celui qui la reçoit par la foi sont évidents quand on s'y arrête pour y réfléchir. Il y a tel verset qui va me parler à moi de façon très très personnelle, mais pas à vous. Ça va être autre chose pour un autre. Ce que Dieu me dit dans ses lectures aura un autre effet, n'aura pas le même effet sur vous, c'est selon les besoins. Quand quelqu'un vient prêcher la parole ou l'enseigne ou la lit, ça peut avoir un effet complètement différent. Certaines personnes vont se sentir complètement accusées et d'autres très encouragées. C'est la même parole qui est prêchée et elle a des effets différents sur chacun de nous. La parole peut convaincre, bouleverser, renverser, accabler, rendre la vie, la parole peut consoler. Elle peut nous poursuivre, nous harceler, nous relever, parce qu'elle pénètre au plus profond de l'âme et de l'esprit. La parole sait ce qui s'y trouve et elle touche chacun selon ses besoins, parce qu'elle est vivante, efficace et agissante. L'auteur de l'Épître aux Hébreux présente la parole comme une épée à deux tranchants. À l'époque où l'Épître a été écrite, les épées étaient choses courantes. Pour nous, c'est une réalité peut-être si vous avez des garçons, ils se font des épées. OK, là, on voit un petit peu, ils vont regarder, ils vont se documenter là-dessus. Ce que nous, on voit aujourd'hui dans les films, dans les musées, c'était des objets du quotidien pour beaucoup de gens là-bas parce que c'était les soldats romains qui occupaient l'endroit et ils en portaient tous. Et les conflits armés étaient nombreux. L'épée était une arme redoutable. Et quand l'auteur compare la parole à une épée, les gens savaient exactement à quoi ça faisait référence. L'épée romaine avait deux tranchants. C'est-à-dire que c'était très pratique quand tu te trouves devant un ennemi, alors que tu sois de ce côté-là ou de ce côté-là, ça marche. OK? Alors, vous pouviez facilement couper l'abdomen de votre ennemi, que vos mains soient à gauche ou à droite. Et ce qui faisait la force des épées romaines, c'était ils avaient différentes longueurs selon qu'on est à cheval, on a une plus grande épée. Et si on est à pied, on a une épée plus courte. Et une des tactiques des soldats romains, c'était de pouvoir entrer dans la garde de l'ennemi, donc dans une certaine zone. Si l'ennemi avait une longue épée, il ne peut pas s'en servir parce que toi, tu es trop proche. Alors toi, avec ton épée courte à deux tranchants, tu es juste devant lui, que tu partes à gauche ou à droite, tu faisais la job comme il faut. Alors c'était une arme redoutable. On dit même que l'épée romaine, c'est l'épée qui a conquis le monde. Le propre d'une lame, c'est d'être bien aiguisée. Sinon, est inutile, elle ne fait pas bien son travail. Je trouvais que les épées romaines, c'est un très bel exemple, c'est dans la parole de Dieu, mais ça ne me rejoignait pas trop. J'essaie de penser à des lames intéressantes. Ah, couteau de cuisine. Hein? Couteau de cuisine. Moi, mon fils a fait un cours en cuisine, puis quand il est arrivé avec le gros couteau, il avait son coffre à outils avec toutes ses lames, avec sa grosse lame, et puis que j'ai comparé avec ma lame à moi, ben, j'ai trouvé ça très efficace. Un vrai couteau de chef. Fait que là, mon fils, après ça, il a aiguisé mon couteau de chef que j'avais reçu en cadeau de mariage, qui n'avait jamais été aiguisé. Tout d'un coup, il s'est mis à fonctionner à merveille. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'hésitais beaucoup à aiguiser des oignons parce que c'est depuis quelques années, je suis juste plus capable de supporter la vapeur qui s'échappe de la chair de l'oignon. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'un couteau bien aiguisé fait moins pleurer. Vous ferez la différence entre couper un oignon avec un couteau à steak et couper avec une lame bien aiguisée. On n'écrase pas la chair de l'oignon avec une lame bien aiguisée. Et c'est moins irritant. Alors oui, c'est intéressant ça. Puis le test ultime du bon couteau bien aiguisé, c'est la tomate. Alors vous prenez une tomate, vous coupez avec le couteau. Si la tomate reste intacte, toute belle, c'est que vous avez une bonne lame. J'ai appris ça juste récemment, dommage. Maintenant, je dois couper les oignons, mon mari en raffole. On charcute les tomates quand on n'a pas une lame bien aiguisée. Et là, je pensais à d'autres sortes de lames. Les bistouris. Oui, les bistouris. Je trouve que c'est un exemple de lame très intéressant. Parce que le bistouri, c'est l'outil majeur du chirurgien. C'est un couteau. OK, là, c'est pas à deux tranchants, là. OK, j'ai juste pensé à l'épée à deux tranchants, mais c'est le principe de lame que je veux que vous reteniez. Le bistouri, là, je vous lis l'information que j'ai trouvée sur un site de santé. Ce n'est en somme qu'un couteau, mais un couteau parfait, dont la lame a un tranchant rarement égalé, même par les plus fins rasoirs. Avec cette lame montée sur un manche, lui-même équilibré diversement selon les fonctions de l'instrument, donc selon qu'on coupe un os ou qu'on coupe de la chair, notre bistouri est fait, la lame, le manche, c'est fait différemment. Alors, avec cette lame montée sur un manche, le chirurgien peut pénétrer dans les tissus selon des tranches de section parfaitement nettes. Il peut aussi détacher complètement les parties de ce tissu, des tissus. Donc, il peut faire des incisions parfaites, puis il peut aussi couper le bon du mauvais. Les bistouris ont des lames interchangeables qui ne servent très souvent qu'une fois, ce qui permet d'avoir chaque fois un tranchant optimal. Le chirurgien dispose ainsi d'un outil parfait lui permettant une extrême précision des gestes sans besoin de pression ou de force. Fait juste ça tranche. Le mot bistouri a une origine obscure. Ça vient d'un dialecte italien qui veut dire poignard de Pistoia. C'est un endroit. C'est un mot qui est très chargé affectivement. Tu sais, passer au bistouri, c'est oh. C'est l'un de ceux qui font le plus peur, sur lesquels sont fixées de véritables angoisses. Mais et ça, je cite, là, je vous lis quelque chose, une citation. « Mais pourtant, dans sa perfection même, le bistouri ne devrait susciter que la tranquillisation des malades. Le bistouri, bien aiguisé, est porteur de vie. Parce que pour ouvrir les chairs sans les charcuter, pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur, pour détacher la mauvaise tumeur de tout ce qui est bon, on va être content que le bistouri soit bien aiguisé. Le bistouri est porteur de vie entre les mains du chirurgien. Si on compare la parole de Dieu à une épée à deux tranchants, peut-être qu'on pourrait la comparer aussi à un couteau de chef de la meilleure qualité ou à un bistouri au tranchant optimal. Mais il faut prendre des précautions quand on manipule une lame. Dans vos notes, le verset qui est indiqué, il y a une erreur. Ce n'est pas Proverbe 18-21, c'est une bonne référence, mais elle est pour plus loin. C'est 12-18, les mêmes chiffres. Okay? C'est 12-18 dans vos notes. C'est écrit, celui qui parle à la légère blesse comme une épée. Il faut des précautions quand on manipule notre lame. On ne se sert pas d'une lame à la légère. On veille à ce qu'elle soit toujours bien aiguisée. On va remplacer celle du bistouri après chaque usage. On va affûter le couteau de cuisine. Une lame, on ne laisse pas ça traîner, n'est-ce pas? Nous sommes créés à l'image de Dieu. On l'a lu tantôt. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis là, juste un petit peu plus loin, Genèse 2, on voit que l'homme a donné un nom à tout être vivant. Après avoir reçu le mandat de cultiver le jardin d'Éden, l'homme a eu le privilège d'utiliser sa capacité de parler. Dieu voulait... Ça, c'est le verset. Dieu voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. C'est ce que l'homme a fait. Il a utilisé sa parole pour nommer tous les êtres vivants. Les animaux ne sont pas dotés de parole. Ils ont des moyens de communiquer par des cris, des chants, des sifflements. Mais la parole est une caractéristique unique de l'être humain. Et parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, notre parole ressemble à la parole de Dieu. Notre parole ressemble à la parole de Dieu. Je dis « ressemble » parce qu'il y a quelques points communs, mais hélas, beaucoup de différences. Et on va reprendre les quatre caractéristiques qu'on a vues. Alors, quelles sont les quatre caractéristiques de la parole de Dieu que nous avons vues? Elle est premièrement vivante, efficace, tranchante, pénétrante. Est-ce que notre parole est vivante? Est-ce qu'elle engendre la vie? Est-ce que ma parole peut tirer quelque chose du néant pour l'amener à l'existence? Non, pas du tout. Par contre, Proverbe 18-21 dit que la langue a pouvoir de vie et de mort. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Oh! On va en parler, deuxième conférence. Notre parole est-elle efficace? Quand je parle, est-ce que la chose s'exécute? Des fois, oui. Plus les enfants sont jeunes, plus ça marche. Je suis toujours heureuse quand mes enfants m'obéissent, quand je donne un ordre ou une consigne. Si j'enseigne ou je conseille quelqu'un, ça va me faire plaisir que mes paroles aient un effet notable. Quand mes paroles font du bien. Alors oui, parfois, mes paroles sont efficaces. Pas toujours. Notre parole est-elle tranchante? Votre parole est-elle tranchante? Le mot tranchant s'applique parfois à nos paroles. Parce que ce qu'on dit, la façon dont on le dit, est souvent aussi tranchant que la lame d'un couteau à steak. Mes paroles peuvent être incisives, cassantes, coupantes. Alors oui, hélas, mes paroles sont souvent tranchantes, mais pas tranchantes au même titre que la parole de Dieu. Notre parole est-elle pénétrante? Ouais. Ouais, ça peut être pénétrant, en un sens. Pas toujours au point de partager âme et esprit, jointures et moelles, mais elle pénètre profondément dans l'âme de ceux qui entendent les paroles. Comme le dit Proverbe 12-18, qu'on a vu tantôt, celui qui parle à la légère, ou, selon une autre version, la personne qui dit n'importe quoi, blesse comme une épée. Tandis que la parole des sages apporte la guérison. Alors, nos paroles peuvent apporter la guérison. Elles ont ce potentiel. Elles ont le potentiel d'être pénétrantes. Le pouvoir de nos paroles, parce que nos paroles en ont, est un maigre et pâle reflet déformé de la parole de Dieu. Le problème principal de notre parole humaine, c'est cette dualité entre le bien et le mal, entre un bon usage et un mauvais usage. Dieu n'a pas ce problème. Tout ce qu'il dit est juste, bon, parfait, éternel, solide, vrai. Nous, ben, on a le potentiel de faire le mal et le bien. Proverbe 12-18 parle de blessure, et de guérison. On peut blesser, on peut tuer avec nos mots, mais on peut aussi faire du bien. On peut apporter la guérison à une âme. On peut consoler, on peut raviver le courage. On peut renouveler une espérance par nos paroles. Jacques 3, les versets 3 à 12, Dans ce passage-là, Jacques compare la langue aux morts que l'on met dans la bouche du cheval. C'est un petit objet qui va servir à contrôler un animal au complet. Il compare aussi la langue au gouvernail d'un bateau. C'est un tout petit élément, mais qui donne au gros navire sa direction, son orientation. La parole est aussi comparée à l'étincelle, qui peut réduire en cendres une forêt tout entière. Jacques montre combien la langue, nos paroles même, mènent notre vie. Puis il décrit son pouvoir de la langue avec des termes très vifs. Elle souille notre corps, elle enflamme le cours de notre vie, elle est enflammée par l'enfer, impossible à dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. C'est pas un portrait qui est reluisant. Notre langue, nos paroles, nos mots ont un grand pouvoir. Un pouvoir insoupçonné. Et Jacques poursuit en dénonçant l'hypocrisie de nos paroles. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants, deux bons tranchants. Notre langue, notre parole ressemble plutôt à un visage à deux faces. Avec la langue, nous chantons les louanges de notre Seigneur et Père. Avec elle, on jette des malédictions aux êtres humains que Dieu a faits à son image. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, mes sœurs, cela ne va pas. Non, ça ne va pas. Jacques fait appel au bon sens, à la logique. Là, il fait trois analogies. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce puis de l'eau amère? Non. Est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Non. Est-ce qu'une vigne peut donner des figues? Non. Alors, bon, des fois, c'est loin, on a de la misère à comprendre, un olivier, on n'a pas ça chez nous, un figuier, de l'eau amère. Alors, j'ai pensé, est-ce que l'eau de la rivière Saint-Maurice est salée à la tuque et douce à Trois-Rivières? Ça vous fait rire. Est-ce qu'au printemps, les érables vont donner de la gomme de pin? Ça vous fait rire parce que c'est ridicule. Ou est-ce que les épinettes peuvent donner des prunes? Non. C'est techniquement impossible, c'est contre nature, c'est impensable. Pourtant, avec notre bouche, on fait exactement la même chose. On dit des bonnes choses à Dieu, puis on dit des mauvaises choses à nos semblables. C'est impensable, c'est illogique. Mais c'est ce que nous faisons. Toutes. Est-ce qu'on laisserait un psychopathe jouer avec un couteau de boucher? Non. Est-ce qu'on laisserait un enfant courir avec un exacto dans les mains? Est-ce qu'on laisserait un enfant manipuler un bistouri? Mais avec notre langue, nous nous conduisons comme des enfants qui s'amusent avec des bistouris. Il faut apprendre à se servir de cette lame que Dieu nous a donnée. Il faut apprendre à se servir de cette lame que Dieu nous a donnée. Comment? Mon propos, ma thèse aujourd'hui, c'est que si cette lame que j'ai dans la bouche était la parole de Dieu, l'épée de Dieu dans ma bouche, que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse, ça c'est dans vos notes. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Que la parole de Christ habite en vous, c'est-à-dire qu'elle réside, qu'elle s'installe comme dans son propre foyer, pas pour un court séjour, pas pour une petite visite de temps en temps. Qu'elle est, que la parole de Christ est pour domicile fixe, vous, votre cœur. Que la parole de Christ réside avec l'autorité d'un maître. Et pas comme un serviteur. Que la parole de Christ réside en vous avec l'autorité d'un maître. Dans toute sa richesse, que sa parole réside, qu'elle vous remplisse abondamment, copieusement, dans la plus grande mesure et avec la plus grande efficacité. C'est un impératif. Quand c'est écrit « que la parole habite en vous », c'est un subjonctif qui a valeur d'impératif. Parce que le subjonctif, l'impératif, c'est tu, vous, nous et vous. Alors, il n'y a pas de troisième personne du singulier. Et ici, on a besoin d'un subjonctif pour exprimer un impératif. Que la parole de Christ habite en vous, c'est un ordre. Et de quelle manière exprimerons-nous la présence en nous, dans toute sa richesse? De la parole de Christ, ben, le verset le dit, instruisez-vous, avertissez-vous, chantez. Chantez. Je trouvais ça bien tantôt qu'on chante des versets. Instruisez-vous, avertissez-vous, chantez. La parole de Christ en moi influence, transforme mes paroles à moi. Si la parole de Christ réside en moi dans toute son entièreté, je serai en mesure d'instruire, d'avertir en toute sagesse. Et j'aurai sur les lèvres des chants de louange et d'adoration. Imaginez si tous les croyants faisaient ça. Ce serait merveilleux. Puis le verset dit, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte. » Souvent, on met l'accent sur les actes, hein? Les choses qu'on fait, parce que ça, c'est visible. J'ai fait telle chose, je suis allé à telle réunion, j'ai reçu telle chose, j'ai donné de l'argent. On parle des actes. Mais que tout ce que vous, quoi que vous fassiez, en parole, ça vient même avant acte, en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Faites-le servez, chantez, enseignez, parlez au nom du Seigneur Jésus. Faites-le pour lui. Faites-le par lui. Faites-le comme si vous parliez en son nom. Et à mes paroles, je dois associer des remerciements à Dieu. Donc, si je fais des remerciements à Dieu, je dois laisser de côté mes critiques, mes plaintes, mon chiolage, mon sarcasme, mes remarques acerbes, mon commérage, ma médisance, les demi-vérités. J'ai une lame dans la bouche. Vous avez une lame dans la bouche. Avec cette lame, vous pouvez blesser, tuer ou apporter la vie et la guérison. Comment puis-je apprendre à me servir de cette lame pour apporter la vie et la guérison? Je pense que le point de départ, c'est de me rapprocher davantage de celui à l'image de qui j'ai été créé. Il faut que la parole même de Dieu soit dans ma bouche. Alors voilà le genre de lame à double tranchant. Peut être efficace. Quand on a ça comme point de départ, il y a beaucoup de mots de nos mots qui trouvent leur solution. Dans la deuxième partie, on va voir quelques exemples d'un bon usage et d'un mauvais usage, des exemples tirés dans l'Ancien Testament. Alors, je termine la première partie là-dessus. Voilà, merci.